Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08 de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci de nous écouter en direct, toujours aussi nombreux. Vous nous écoutez également énormément en podcast tranquillement l'après-midi. Nous sommes là pour vous divertir évidemment, pour vous raconter des expériences de sportifs, pour débattre sur l'actualité avec ce matin David Douillet, Fred Le Canu, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans quelques instants, la seconde des GG, Yamal Dembélé, Dembélé Yamal. La course au ballon d'or est lancée depuis le sacre du PSG en Ligue des Champions. Un pays doit-il faire campagne? On se posera la question. À 11h30, j'adore avoir un rival comme Pogacar. Vingegaard retrouve à partir de demain son meilleur ennemi sur le Dauphiné. Faut-il aimer ou détester son rival? Je pense que notamment nos amis judokas ont pas mal de choses à nous apprendre. Et puis 11h45, les GG contre-attaque. Mes GG, vous avez proposé des débats ce matin. Je vais regarder pour l'instant qui s'impose. Oh, le GOAT est de retour. Christophe Cessieux revient dans cette émission et il emporte la bourriche. 45%, le suspense en top 14 pour cette dernière journée. Ce soir, de la phase régulière, c'est à 21h05. Incroyable, 45% pour toi, sachant que la reconnaissance pour le basket, deuxième sport peut-être collectif en France, est vraiment plébiscité, c'est 16% pour toi mon cher Fred Weiss.
C'est mieux que Fred Le Canu, non?
Et Fred Le Canu, c'est mieux parce que son ballon d'or avec l'intelligence artificielle, c'est 12%.
Ah ouais, mais j'appelle la VAR. Je veux revoir l'arbitrage vidéo parce que ça me semble trop détaché de cette question.
Il nous reste encore 30 minutes pour voter. Alors, chers auditeurs, fais un appel au don.
Oui, mais c'est surtout que tu vois, cette intelligence artificielle, c'est un sujet qui est quand même qui demande du temps de maturation. Donc tu vas voir que ça va remonter en flèche derrière.
Ok, on le refait l'année prochaine alors.
Sans problème. Je pense que tu peux le passer.
Et puis David Douillet, après les débordements à la suite du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, est à 27%. Donc c'est encore.
Et son avis est très intéressant. Donc c'est dommage pour David.
C'est encore jouable les copains, c'est à 11h45 les GG contre-attaque. On va débuter cette nouvelle heure d'émission avec cette citation de Jacques Chirac. Ça me fait plaisir de citer du Jacques Chirac dans les grandes gueules du sport. Il a dit un jour, dans une campagne, il faut aller chercher les électeurs avec les dents.
RMC, les grandes gueules du sport, passent la seconde.
Les élections municipales approchent et les candidats ont commencé leurs opérations de séduction auprès des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Quelles sont les méthodes employées?
Si Mbappé fait la même saison qu'Ousmane Dembélé en soulevant une Ligue des Champions, en étant impactant sur la phase finale comme l'a été Dembélé au Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas de débat.
8h, les premiers clients arrivent au marché de Blény-sur-Orge. Et les militants sont déjà sur le pied de guerre en attendant leur candidat.
Évidemment que je suis pour Ousmane à choisir. Je vous dis Ous à 100%, bien évidemment.
9h. Il est maintenant temps pour les candidats d'engager le dialogue avec les électeurs.
Message super important. Et Ousmane Ballon d'Or.
13h. Un à un, les commerçants quittent le marché. Mais les candidats se retrouvent pour faire le bilan de cette matinée malgré leurs divergences politiques.
Celui qui mérite le ballon d'or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé.
Il y a deux très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. Il y en a un qui joue au Real Madrid, il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain. Donc je voterai pour les deux.
Ousmane Dembélé, au vu de sa saison, plus la Ligue des Champions, je pense qu'il le mérite.
Tu trouves ça peut-être politiquement correct?
Dembélé, Mbappé, c'est vrai que les Bleus ont eu du mal à trancher hein, cette semaine pour décerner le Ballon d'Or 2025, un choix hautement politique et diplomatique, et une question qui embarrasse drôlement les coéquipiers des deux internationaux. Les Espagnols n'ont pas ce problème de riches, ils ont fait leur choix. Le phénomène, Lamine Yamal. La presse, les partenaires, les supporters, les sponsors, tout le monde est en ordre de marche. La sélection espagnole est connue pour son pressing tout terrain, il en est de même pour l'élection du Ballon d'Or. La musique qui fout les jetons, et cette question: un pays doit-il faire campagne pour le Ballon d'Or? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Fred Weiss.
Bien sûr que oui.
Fred Le Canu.
Jamais.
David Douillet.
Absolument pas.
Ok, il est tout seul, Fred Weiss, mais il n'a pas peur des costauds face à lui. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant en Espagne, Edgar Grollo, actuellement en Allemagne pour suivre le parcours de la sélection espagnole. La finale demain face au Portugal, mais également les Bleus qui joueront leur petite finale face à l'Allemagne à 15h demain. Et ce sera à suivre sur RMC. Salut Edgar.
Salut JC, salut tout le monde.
Alors c'est vrai qu'on a envie de t'entendre plus sur l'Espagne, la presse espagnole qui cette semaine est devenue totalement folle sur le sujet.
Oui, totalement. À commencer par Sport, le quotidien catalan. Sur la une, le jour du match Espagne-France, Yamal vise le ballon d'or. Le lendemain du match, le grand titre, Yamal en or. Et puis aujourd'hui encore, troisième jour consécutif, une grande photo de Lamine Yamal avec ce titre. Il n'y a pas de débat. La presse espagnole avait décidé cette semaine que le ballon d'or se jouait jeudi entre Yamal et Dembélé. Yamal a mis un doublé. Donc, elle en conclut que tout est joué. Tous les médias poussent pour Yamal. Javier Herraez est journaliste à la Cadena Ser. N'essayez pas de nuancer en disant que Lamine Yamal n'a marqué que 9 buts en championnat, parce que voilà sa réaction.
Il ne lui manque rien, il n'a même pas 18 ans. Il marque des buts incroyables, fait des passes de l'extérieur du pied, porte l'équipe sur son dos. C'est un joueur total. Pour moi, et je ne dis pas ça parce qu'il est espagnol, Lamine Yamal est le joueur qui a le plus fait la différence cette saison.
Il en rigole, toute l'Espagne est convaincue évidemment que Yamal doit le gagner. À quelques exceptions près quand même, Pedri ne s'est pas prononcé cette semaine parce qu'il estime lui aussi être un candidat légitime. Et une petite partie de la presse pro-Real Madrid espère encore qu'un grand mondial des clubs peut sauver les chances de Kylian Mbappé. Mais je pense qu'il part quand même d'assez loin le français.
Merci beaucoup Edgar Grolot pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. On vous attend évidemment au 32-16. Ce débat qui est apparu cette semaine après la victoire du Paris Saint-Germain et d'Ousmane Dembélé en Ligue des Champions et ce match évidemment entre la France et l'Espagne qui voyait s'opposer les deux prétendants au titre individuel suprême en football. Un pays doit-il faire campagne pour le Ballon d'Or? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Surtout pas, c'est non pour toi, Christophe Cessieux.
Moi je vais vous dire que je trouve l'attitude des Espagnols sur ce cas complètement déplacée. On le sait que les Espagnols sont les cadors du foot européen, que leurs clubs sont les plus grands et les plus riches en palmarès, qu'ils recrutent les footballeurs les plus géniaux. Mais arrêtez, messieurs les Espagnols, ou mesdames aussi, de vouloir tout régenter dans le foot européen, de décider de tout. On n'est pas dans une campagne électorale. Arrêtez ce lobbying intense qui me fatigue. Bien sûr que c'est un génie, le petit Yamal. Personne ne dira le contraire. Évidemment qui mérite le ballon d'or, et je suis sûr qu'il en obtiendra un paquet tout au long de cette carrière, mais il n'a pas besoin de vous. Laissez les gens qui votent faire leur propre idée, décider en conscience. Le lobbying qui régente nos sociétés, c'est pas uniquement dans le football, c'est dans tous les domaines. Ces influenceurs me gonflent, on n'a pas besoin d'eux, que chacun exprime ses opinions, bien sûr, que l'on débatte, j'adore ça, on en est la preuve ici dans cette émission, mais nous rabâcher à longueur de colonne une interview que Yamal est plus fort que Dembélé, qu'il mérite amplement de remporter le ballon d'or, stop, ça suffit. Je trouve, jusqu'à présent, l'attitude de la France, même si on a entendu tout à l'heure dans la prod, elle est plus mesurée. On est allé poser la question, mais même les joueurs de l'équipe de France disent oui, Dembélé, mais ils vont
pas. Ils ont un problème parce qu'il y a le capitaine à côté.
Il y a Mbappé. Mbappé, il va pas obtenir le ballon d'or. L'attitude du Real, l'année dernière, rappelez-vous, au moment où Vinicius ne reçoit pas le ballon d'or, ils ont boycotté. C'est un peu comme Pepe, le fils du chef dans Astérix en Hispanie, qui retient sa respiration. Goscinny avait bien réussi à déceler ce caractère des Ibériques, des Ibères qui ne supportent pas qu'on leur tienne tête alors qu'ils ont l'impression qu'ils sont les meilleurs. En fait, je crois que les Espagnols sont furieux que le PSG ait remporté la Ligue des Champions. Ils considèrent ça comme une injustice, d'autant que le PSG, mis à part Gérone, n'a pas battu le club espagnol pour arriver à décrocher le truc, et que là, ça les gonfle, et donc ils ont décidé de se venger et de pousser Yamal vers le ballon d'or. Le plus ridicule encore dans tout ça, dans tous les Espagnols, c'est encore Javier Tebas, vous savez, le patron de la Ligue espagnole, lobbyiste en chef qui est jamais avare d'une connerie. Il considère que le ballon d'or devrait revenir soit à Yamal, soit à Vinicius. Alors, autant l'année dernière, je veux bien, mais là, cette année, qu'est-ce qu'il a montré Vinicius? Non, mais alors lui, il est complètement hors sol.
Ok, très bien pour le plaidoyer contre la presse espagnole, contre les Espagnols de Christophe Cessieux. Pourquoi un pays doit faire campagne, Fred Weiss?
Mais je ne comprends pas du tout ce que dit Christophe Cessieux. Je trouve qu'avoir la fierté nationale d'avoir dans son pays le ballon d'or, en fait, juste avant sur le débat précédent.
Ça aurait été bien en Italie en 1930.
Christophe, je te laisse parler.
Si tu me coupes tout le temps, ça va être difficile que j'ai des arguments, effectivement. Mais juste sur le débat avant, on parle de Loïs Boisson et c'est magnifique l'exemple qu'elle va donner parce que pour la formation, pour l'exemple, pour ce qui va venir après. Mais avoir un ballon d'or, c'est pareil. Se dire qu'on a un Français ballon d'or, bien sûr, il faut être un petit peu chauvin. Bien sûr qu'on est dans une campagne. Bien sûr qu'on a envie qu'on ait un Français qui nous représente, qui soit ballon d'or. Moi, ça me ferait rêver. C'est le sport roi, le foot. Qu'on le veuille ou pas. On n'aime pas tous le foot, mais c'est le sport roi. Il faut le reconnaître. Quelle fierté
pour notre
formation. Mais
donc
bien sûr. Mais oui, parce qu'il faut se servir de ce dont
on peut. Donc le nationalisme doit être partout, même dans le sport.
Évidemment.
Nationalisme.
Évidemment,
et si les gens sont pas d'accord avec toi, tu les mets devant un mur, et puis voilà, c'est comme ça que tu vas y arriver.
peux confondre ce que je suis en train de dire et ce que tu viens de dire. Il y a aucun rapport. Je dis juste qu'on a à dire qu'on est content et fier d'être français. Il faut arrêter de ne pas être chauvin. Les Espagnols sont chauvins et ils ont bien raison. On a une belle formation. On a de beaux joueurs français. Arrêtons de dire ah nous non, on va pas tomber dans ça parce que.
On a toujours été un peu comme ça.
Mais oui,
il y a eu des précédents.
J'en ai marre de ça. Moi.
Autour de Franck Ribéry n'avait pas forcément apprécié qu'on ne le pousse pas assez.
Mais
Franck Ribéry.
Il avait raison.
Antoine Griezmann, ça a été un petit peu mieux, mais on prend souvent quelques pincettes tout de même français. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce débat.
C'est tort de prendre des pincettes. On a à être fier de nos sportifs.
Tu n'es qu'un Trumpiste.
Parce que je soutiens un français. Eh ben, écoute, je suis Trumpiste si tu veux alors.
Dans ton attitude, dans ta façon de réfléchir en fait. Voilà.
Parce que je réfléchis pas comme toi.
Américain ou France.
Oui, parce que je suis fier d'avoir un français qui sera peut-être en dehors. Oui, je suis fier. Je suis fier d'avoir une Loïs Boisson qui fait une belle performance à Roland-Garros.
Ok, j'imagine qu'au niveau des sports individuels, là, les copains judoka, Fred et David, vous en pensez quoi ?
Non, mais ce qui me gêne, parce que je suis d'accord avec deux aspects de vos réponses. Bien sûr qu'on est fier si c'est un Français, et bien sûr qu'il faut faire gaffe à un engagement total de lobbying. C'est ça qui me gêne. Qu'est-ce que ça définit le Ballon d'Or ? Le Ballon d'Or, ça définit le meilleur. Or, le meilleur, il est défini sur des critères qui sont normalement statistiques, applicables, contrôlables. Là, on est en train de basculer dans un truc, si t'es pour, t'es contre. Tu dis, le nationalisme amène à tout. Enfin, je suis désolé, mais les maillots de l'Inter, ils ont été beaucoup vendus à Marseille aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand t'es pour, t'es contre, quand t'es contre, t'es pour. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'on détourne le fait d'avoir le meilleur. On est pour quelqu'un parce qu'il est proche de chez nous sur notre club, parce qu'il est proche de chez nous sur notre territoire. Or, à un moment donné, on devrait être pour le meilleur joueur sur des critères qui sont définis. Et là, on est en train de basculer dans une propagande, dans une prise voilà, on possède le truc, on défend. Et pourquoi les Français sont un petit peu, voilà, parce que t'as Kylian Mbappé d'un côté, t'as l'autre de l'autre. Non, mais c'est qui pour toi le meilleur joueur ? C'est tout.
Tu parlais de critères.
C'est tout.
Et vous êtes en train de parler des critères et je vais laisser la parole évidemment à David. Le prochain Ballon d'Or va être attribué en septembre prochain après les votes de 100 journalistes, donc basé sur trois critères. Il y a les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant. Voilà, ça c'est le premier critère. L'aspect collectif en deuxième critère et en troisième critère, les trophées remportés, la classe et le fair play. Voilà pour les trois critères.
Et moi dans ce contexte-là, moi le gardien du PSG, j'adore. J'ai le droit. Je suis pas pro PSG, pas pro machin. J'adore le gardien Donnarumma parce qu'il était, en victime et derrière c'est un héros. Et ça remontada de lui, j'adore. Et il sera jamais parce qu'il est gardien. J'adore. C'est mon meilleur joueur. J'ai le droit.
Il y a que les attaquants qui
dans
80% des cas.
Je vais prendre l'angle sur le côté technique et totalement électoral. Tu le rappelais, il y a 100 journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Et les 100 journalistes, ils sont déterminés comment ? C'est par les 100 pays qui forment le classement FIFA, les 100 pays classés par la FIFA au niveau du football mondial. Ça, c'est réel, c'est un fait qui est établi. Et j'ai regardé dans les 25 premiers pays qui parlent espagnol. Il y a un cinquième des pays qui parlent espagnol, qui sont hispaniques sur les 25 premiers pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, très clairement, l'Espagne a raison de faire campagne, parce que l'espagnol, c'est la deuxième langue parlée au monde. Dans le classement FIFA, les 25 premiers, il y a 5 pays qui parlent espagnol. Vous vous rendez compte du poids qu'a la culture et le fait d'être culturellement attaché à une langue et un pays d'origine, ça va peser, c'est sûr. Et ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est pas juste dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un cinquième des 25 premiers journalistes qui sont déjà en train de voter pour un Espagnol. Vous voyez, là, dans la méthode, je trouve que je remets en question le process, la méthode.
Alors, je comprends, David, mais il y a encore quelques années, c'était les joueurs qui votaient, joueurs et sélectionneurs. Et là,
c'était les journalistes.
Non, au début,
mais aujourd'hui, c'est comme ça.
Aujourd'hui, c'est comme ça. Grand n'importe quoi. Donc, non, je veux dire, quand c'était les joueurs et les sélectionneurs, c'était le copinage.
Mais c'est la raison pour laquelle je dis que aujourd'hui, c'est anormal qu'un pays fasse campagne, et en particulier l'Espagne, parce que c'est disproportionné. Parce que ils sont sûrs de gagner. Moi, le Ballon d'Or, on le connaît, ça va être Yamal. C'est sûr et certain. C'est mathématique. C'est posé.
La professionnalisation sur le Ballon d'Or, puisqu'au départ, l'idée est extraordinairement intéressante, c'est qui le meilleur ? Elle doit être non pas sur la capacité de convaincre.
C'est subjectif, Fred.
Mais non, c'est pas subjectif.
Mais bien sûr que si, c'est subjectif. Mais t'es mort, Fred. T'es mort.
T'es mort, tu compares. Et bien sûr qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que ce soit le meilleur. Sauf que là, ça sera pas forcément. Non, voilà, c'est ça. Ça sera pas forcément le meilleur. Ça sera pas forcément le meilleur. Ce sera celui qui va obtenir le plus de votes. Et le plus de votes par rapport à un pays qui,
ou une. C'est comme la désignation d'une ville candidate pour les Jeux Olympiques.
Qui domine les pays dans la FIFA, et ben voilà, c'est, on sait que l'Espagne, la culture espagnole.
Donc c'est une affaire d'influence, c'est pas une affaire de performance.
Absolument. Oui, et c'est ça qui est pas
juste. J'entends. D'influence, soyons influents et essayons de l'obtenir.
J'entends, les amis, c'est pas qu'une histoire d'influence, c'est une histoire de performance. C'est pas, je veux dire, c'est pas. Imaginons qu'il y a un Américain qui soit très influent, c'est pas pour ça qu'on va avoir un ballon d'or américain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça se détermine entre quand
même. Non, mais comme il possède des clubs comme l'Américain possède, ça peut être un Lyonnais peut-être.
Non, mais les deux meilleurs joueurs, Yamal, Dembélé, ce qui me dérange dans cette histoire, et évidemment, en tant que Français, on a tous envie qu'Ousmane Dembélé soit Ballon d'Or, mais c'est quand on prend comme premier critère, on dit ah oui mais il y a les trophées remportés, il a remporté la Ligue des Champions donc ça doit être lui. Ouais. Il y a Pierre, je vais l'accueillir dans quelques instants, supporter parisien. Moi je trouve que le seul critère qui vaille là-dedans, et c'est le premier critère, c'est les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant en premier. Les deux sont impressionnants, mais subjectivement, il y en a un qui vous impressionne plus que l'autre. Après, ça peut. Vous avez le droit de choisir Dembélé, ouais. Vous avez le droit de choisir Yamal. Mais il y en a un qui vous dites ok, est-ce qu'on a déjà vu ça? Rarement, en tout cas.
Bien sûr.
Moi, je suis français. Je souhaite que Dembélé l'ait, mais au niveau de la qualité pure, je me dis Yamal, ça me paraît évident.
À ce moment-là, Kylian Mbappé aurait dû l'avoir il y a quelques années lorsqu'il électrisait les foules.
C'est vrai.
Tu vois,
c'est vrai.
Et effectivement, Yamal.
Il n'avait pas remporté les championnats d'Europe, les Coupes du Monde.
Mais à l'époque, on disait, c'est les performances en club. Et donc, comme il n'était pas champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain.
Et qu'il s'arrêtait en huitième de finale.
Et voilà, donc, il n'a pas été choisi.
Je trouve que c'est un problème d'exclure les résultats collectifs. Pourquoi on exclurait les résultats collectifs? C'est hyper important.
On ne les exclut pas. J'ai juste que Yamal qui fait demi-finale de la Ligue des Champions. Bah, ça suffit à faire une performance de sa saison. Il est décisif dans cette demi-finale face à l'Inter. Je suis pas en train d'être pro-Yamal. Je dis juste que s'arrêter en disant il a gagné la Ligue des Champions, ça doit être un des joueurs qui a gagné la Ligue des Champions. Je trouve que c'est un petit peu, c'est trop réducteur. Même si Dembélé, on l'adore et c'est un joueur fantastique.
Quand tu gagnes la Ligue des Champions, t'es la meilleure équipe. T'es la meilleure équipe. La meilleure équipe, pourquoi ce serait pas lui?
Vous avez vu d'ailleurs que les Espagnols ont choisi Rafinha comme meilleur joueur de la Liga cette saison. C'est-à-dire que Yamal, il est même pas été désigné. Dans ta phrase, le truc, il est déjà compliqué. Parce que tu dis, j'aurais aimé un Français. Ben moi, c'est l'inverse. C'est, j'aurais aimé le meilleur.
Non, moi, j'aurais
aimé. Et si c'est un Français, j'en serais très fier. C'est ça le problème.
Oui, c'est ça le problème.
Moi, tu veux choisir un truc qui a mal. Je trouve extraordinaire. Pour moi, c'est potentiellement, comme l'a dit Christophe, le meilleur. Si c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et si demain Dembélé, c'est le meilleur et qu'il est français, j'en serais très fier. Mais je ne veux pas un Français pour dire que c'est un Français, que c'est le meilleur.
Voilà. Dans un mouchoir de poche, je préfère un Français. Je suis désolé.
Ok, Edgar Grollo.
Oui, je dis pas ça pour dire qu'il mérite pas ce ballon d'or, mais n'oublions pas, et Christophe l'a rappelé, c'est Rafinha qui a gagné le titre de meilleur joueur de Liga, c'est Dembélé qui a remporté le titre de meilleur joueur de Ligue des Champions, et Lamine Yamal en Liga, il a marqué qu'un seul but entre le mois de novembre et le mois de mai. Donc certes, ça a été un joueur aussi très impressionnant, mais tu peux aussi te dire que dans les critères, tu récompenses aussi la régularité qu'a eu un Dembélé à partir de l'année 2025, et aussi pour comprendre aussi le contexte espagnol dans tout ce qui est lobbying, etc. Il y a une culture du ballon d'or qu'on n'a pas forcément en France, même si ça paraît paradoxal puisque ça vient de France Football. Mais entre 2009 et 2022, 100% des ballons d'or jouer en Liga. Et donc en fait, t'as un pays qui est complètement habitué à faire campagne et qui même pendant longtemps, on n'avait même pas besoin de faire campagne pour que ces joueurs gagnent puisque t'avais Messi, Ronaldo. Et donc maintenant, ça fait quelques années qu'ils ont plus le ballon d'or et donc ils sont comme des fous, ils ont absolument envie que le ballon d'or revienne en Espagne. Et Vinicius l'a pas eu l'année dernière.
Et Edgar, ils sont tellement dingues de ça que ils préféreraient que ce soit un joueur du championnat d'Espagne comme Vinicius qui est brésilien plutôt qu'un Espagnol qui joue à Manchester City. Ça a été le cas l'année dernière.
Exactement, l'année dernière, il y avait presque plus une déception que ce soit pas Vinicius que ce soit un Espagnol qui gagne.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Edgar Grollo. Il y a Pierre qui nous appelle au 32-16, je crois qu'il veut donner un petit coup de main à Fred Weiss qui était tout seul sur ce débat. Salut Pierre.
Salut les gars, comment ça va?
Bah écoute, tout va bien, merci d'être avec nous. Est-ce qu'un pays doit faire campagne pour le Ballon d'Or?
Alors je vais faire très rapidement. Déjà oui, un pays doit faire campagne pour le Ballon d'Or. Nous on a eu des gars comme vous l'avez cité, des Ribéry, des Griezmann qui auraient dû pour moi avoir le Ballon d'Or, mais vu qu'on met pas assez de pression et vu que nous les Français on trouve toujours qu'on est meilleur à l'étranger, on fait jamais campagne pour nos gars. Et puis moi je vais vous dire, entre Yamal et Dembélé, pour moi en fait il n'y a pas débat. Je vais vous prendre trois critères. Les statistiques individuelles, les statistiques collectives et l'impact que le joueur a sur son équipe. Statistiques individuelles, Dembélé, il est clairement au-dessus. Statistiques collectives, Dembélé, il a tout gagné. Yamal, il a gagné un trophée. Et impact du joueur sur le jeu de son équipe, Dembélé, il attaque, il dribble, il marque, il défend. Il a clairement, tous les critères sont pour lui, en fait, simplement. Yamal, c'est sa première saison vraiment à haut niveau et à ce niveau-là. Je dis pas, hein, le gars, c'est un génie. Mais bon, c'est encore un jeune. Attendons de voir sa deuxième saison quand il sera un petit peu plus attendu par les défenseurs en face. Et je parle pas des trompettes qu'il a eues en face de lui jeudi soir. Mais attendons la confirmation. C'est clair que c'est un génie. En termes de talent pur, il est certainement au-dessus de Dembélé. Mais en termes d'impact sur l'équipe...
Et sur la saison, pour toi, il n'y a pas photo.
Et sur la saison, il n'y a pas photo. Et nous parlons... Mais je sais même pas pourquoi Mbappé arrive dans la discussion. Il n'est pas dedans. Et entre Yamal et Dembélé, il n'y a pas photo, les gars.
Il arrive dans la discussion parce qu'il ne faut pas froisser la star et le capitaine des Bleus. Mais je suis assez d'accord avec toi.
Et sur Yamal, Ballon d'Or, c'est juste les Espagnols qui mettent la pression. Moi, je pense que vous allez voir en Italie, en Angleterre ou quoi, personne ne voit Yamal Ballon d'Or.
Ah, là, je sais pas. C'est vrai que les Espagnols mettent la pression et poussent leur poulain. En tout cas, c'était parfait comme démonstration. Tu m'as convaincu. Ousmane Dembélé doit être Ballon d'Or. Tu viens de me convaincre, Pierre. Bravo. Et merci d'avoir composé le 32-16. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Alors, demain, c'est le grand début du critérium du Dauphiné. Alors, vous allez me dire, c'est pas le Tour de France. Mais ils vont se retrouver. Pogacar et Vingegaard. On en parle tout de suite dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi.
C'est une histoire abracadabrantesque.
Les grandes gueules du sport. Oh,
Jean-Christophe Drouet.
Avec David Douillet, évidemment, dans les grandes gueules du sport. Fred Le Canu, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Vous avez eu 2 heures pour voter, chers auditeurs. Je crois que Christophe Cessieux est en tête avec sa proposition sur le. La dernière journée folle du top 14, c'est ce soir, 21h05, à suivre sur RMC. Mais vous pouvez encore voter. Je rassemble les résultats dans moins de 10 minutes maintenant. Mais tout de suite, du vélo. Ils ne se sont plus croisés depuis le Tour de France 2024. Demain, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux meilleurs coureurs de la planète, vont se retrouver sur le critérium du Dauphiné, un plateau exceptionnel pour la 77e édition de cette course française, à seulement, vous le savez, 3 semaines du Tour de France 2025. Sur la grande boucle, justement, le score est toujours de 3-2 pour le Slovène, mais le Danois adore courir avec Poggi. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Si je courais sans Tadej, ça ne serait pas la même chose et j'espère qu'il a le même sentiment de son côté. J'apprécie d'avoir un rival comme lui.
J'adore avoir un rival comme lui. Ça nous a inspiré cette question, mais GG, faut-il aimer ou détester son rival ? Christophe Cessieux.
Je vais avoir une réponse nuancée. Aimer non, mais détester pas forcément non plus, quoi. Tu peux passer entre les deux.
Fred Weiss.
Le détester.
David Douillet.
T'aimes pas de toi.
il faut pas les aimer, il faut les adorer.
Ok, très bien. Tu vas nous expliquer ta nuance. Fred Le Canu.
Il faut aimer chez lui ce qu'il t'oblige à améliorer que tu détestes.
Ok, on a 2 heures et une copie double, les copains. Je sens que ça va être philosophique.
Alors,
David, justement, toi qui as fait un combat et un sport de combat, plutôt, est-ce que tu aimais ou tu détestais ton rival ?
Moi, j'ai toujours aimé mes rivaux et je les remercie.
T'aimais leur mettre des mines, ouais, tu leur mettre des pions ?
Oui, mais ça, c'est un autre problème. je les ai adorés parce que s'ils sont pas là, s'ils font pas partie de la danse, s'ils font pas partie de la grande pièce de théâtre, t'existes pas. Tu vois, je dis souvent cette phrase qui est extraite du site de Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mmh. C'est complètement ça. Un adversaire de très haut niveau, un adversaire qui est quelquefois même plus fort que toi, t'oblige, te pousse au derrière pour aller dans les plus fines capillarités de ton potentiel. Si t'as pas ça, t'y vas pas, t'y vas moins.
David.
Et donc, tu mets un terme à ton exploration personnelle pour être le meilleur.
David,
donc les adversaires, les plus, pourvu qu'ils soient le plus fort possible. C'est tellement important.
Non mais David,
si
David,
t'as
David,
pas
David,
ça,
David,
tu peux pas avoir un grand parcours.
Arrête, David, je me rappelle d'un douillet Shinohara, je me rappelle pas que t'aimais particulièrement Shinohara. Ce que t'as aimé, c'est la réaction qui t'a amené à voir. C'est ce que t'es en train de dire. Il t'amène dans tes retranchements.
Non,
c'est ce que j'ai dit.
Non,
c'est t'aimes.
Oui.
T'aimes parce que ça t'oblige à aller dans, ça, tu détestes des endroits et ça, ça t'oblige à en sortir pour être encore
non,
plus fort.
C'est pas vrai.
Si Shinohara t'avait battu à Sydney, je pense que tu l'aimerais beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Non, mais en fait,
c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Attendez, David va répondre quand même.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il aurait très bien pu me battre. Il aurait d'ailleurs, il m'a battu en tournoi à Shinohara. Et pourquoi et en fait, mais que ce soit Shinohara ou un autre, peu importe. On fait des fixettes sur des noms. C'est pas des noms qui sont importants. En fait, les adversaires pourraient avoir un visage complètement anonyme et des noms anonymes, ça changerait rien pourvu que il soit bon et excellent. C'est en fait leur qualité et leur brio qu'il faut aimer et leur bravoure qu'il faut aimer parce que ça te construit, ça fait partie des ingrédients qui construisent quelqu'un qui est porté vers l'excellence. Sinon tu peux pas. T'es construit mais pas à l'optimum. Tu te construis tout seul. Tu peux pas te construire tout seul.
Est-ce que
tu es obligé de te construire face à une rivalité qui est aussi forte et c'est ça qui est stimulant et qui est magnifique dans la compétition. Si tu es ton adversaire, t'as rien compris. Voilà.
Est-ce que toi, tu appréciais Vince Carter après la finale des Jeux Olympiques, par exemple, Fred ?
Alors, j'avais absolument rien contre lui, mais c'était pas mon rival. Donc non, mais je crois que en termes de sémantique, on a un David Douillet qui est pas dans le coup aujourd'hui, parce qu'il confond adorer avoir un rival et adorer son rival, ce qui n'a rien à voir. J'adorais avoir des rivaux, j'adorais me dire et me motiver grâce à eux et me dire que ils allaient me pousser et que je devais être meilleur parce que ils étaient mes rivaux.
Réécoute ce qu'a dit Vingegaard. On est sur ce thème-là, Fred. C'est toi qui es à côté de la plaque. Vingegaard dit moi j'aime Pogacar parce que c'est un grand rival. C'est toi qui es à côté de la plaque.
J'aime avoir Pogacar parce que c'est un grand rival. Il a pas dit j'aime Pogacar, il a jamais dit ça. C'est toi qui te méprends. Il a jamais dit qu'il aimait Pogacar. Il aime avoir Pogacar parce que ça, effectivement, ça lui permet de franchir des caps physiques. Ça lui permet d'avoir quelqu'un qui
l'a. Il dit j'apprécie avoir un rival comme lui.
Oh, c'est ça la mauvaise foi.
À un moment, il dit j'adore
Pogacar. Il dit j'adore un rival comme lui parce que il est tellement fort et qui te pousse dans des retranchements. Mais
c'est ce que je viens de dire.
Ben non, ça n'a aucun rapport, David. En fait,
c'est précisément ce que je viens de dire.
Continue, Fred. Moi, je n'aime pas mon rival, je n'ai jamais aimé mon rival, mais j'adorais en avoir un. Ça n'a rien à voir. Je détestais mon rival, et quand je l'aimais bien, c'était beaucoup plus dur de jouer contre lui, parce que j'hésite à lui mettre un coup. J'ai un exemple très concret avec le coach de l'équipe de France de basket actuel, Freddy Fautou. Il jouait à Pau, donc par définition, je le détestais, et c'était un rival d'équipe. Sauf qu'un jour, j'étais en équipe de France avec lui, et je me suis rendu compte que c'était un mec super marrant. Eh ben, j'avais plus envie de le frapper, en fait. J'ai hésité, je me poussais un petit peu, je le prévenais quand j'allais mettre un écran. Pourquoi? Parce que justement, j'avais créé des liens avec lui. Je ne peux pas le dire avec mon adversaire. Je veux pouvoir le frapper tranquillement. Le problème, c'est que ça me fait réfléchir. Mais par contre, j'adorais avoir une équipe comme Pau qui me poussait à être meilleur et à vouloir.
Moi, je vais te dire un truc. Moi, si j'ai pas été champion, c'est parce que j'ai trop aimé mes rivaux. Enfin, j'aimais les rivaux aussi à l'époque, mais aussi mes rivaux. C'est-à-dire que les batailles, les Robins et les Douillets, les machins, les trucs. Mais moi, je les ai aimés. Et le problème, c'est quand t'es un empathique.
Tu voulais leur faire des câlins, tu voulais pas leur mettre des hippons, quoi.
Mais tu sais ce que c'est un empathique? C'est quand tu ressens ce que l'autre vit, ce qu'il ressent.
Bien sûr.
Donc quand t'aimes l'autre et que t'es dans un sport de combat, c'est réglé. Alors j'ai gagné, j'ai perdu plein de médailles. Par contre, j'ai gagné beaucoup d'amis. Ça c'est top. Mais par contre, j'en ai souffert trop longtemps. Parce que quand t'es un tueur, t'es un tueur. Quand t'es un compétiteur, t'es un compétiteur. T'es pas là pour aimer le gars. Et moi je te le dis, je les ai aimés, je les aime vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que cet amour-là, il est d'une grande puissance.
Quoi, David ne t'aime pas. Et t'es son rival.
David il m'a aimé dès le départ parce qu'il a su dès le départ que je serais jamais son rival. J'en avais pas les compétences.
Oh, c'est pas vrai.
Non mais.
T'es un menteur.
Mais c'est fort ce que tu dis. Non mais attends.
Je voudrais juste répondre à Fred Vett. Moi je trouve que c'est une erreur que de haïr son adversaire pour la simple et bonne raison que tu te coupes d'informations qui sont importantes justement précisément pour le battre. Parce que quand tu es quelqu'un, tu le regardes pas. Tu lui tournes le dos, tu vois, même physiquement. J'ai une animosité qui m'anime. T'as une animosité, mais qui te coupe d'informations importantes pour pouvoir le battre. Regarde, je prends l'exemple de la finale que j'ai faite aux Jeux Olympiques face à Shinohara. Si je l'avais haï, on s'est retrouvé un quart d'heure l'un à côté de l'autre avant de s'affronter en finale. Voilà. Si je l'avais pas regardé à ce moment-là, j'aurais pas eu l'information cruciale de voir qu'il était fatigué, qu'il était éreinté par sa demi-finale, que ça a été compliqué pour lui de récupérer. Parce que je l'ai regardé, précisément.
Ouais, mais ailleurs, ça veut pas dire de pas regarder, hein. Moi, je le regardais aussi, mais je le toisais
pas. Ben oui, mais quand tu es quelqu'un, t'as le réflexe de lui tourner le dos. Si j'avais été comme toi, dans une haine, j'aurais tourné le dos, j'aurais pas regardé. Et cette information cruciale, je ne l'aurais pas eue. Tu vois, ça va jusque là, l'histoire.
Alors, moi, je vais vous raconter une autre histoire. Je suis en train de bosser sur des podcasts sur le Tour de France, et j'ai bossé sur l'histoire du Tour 1986. Cette année-là, tu avais d'un côté Greg LeMond, de l'autre côté Bernard Hinault. Ils étaient dans la même équipe. L'année d'avant, Hinault avait remporté le Tour et il avait promis à la fin de ce Tour, l'année prochaine, Greg, je me mettrai à ton service, je te ferai gagner le Tour. Bah, tu parles. Pendant 3 semaines, il a essayé par tous les moyens de l'attaquer. Il a attaqué dans les descentes, il a attaqué dans les montées, il a essayé de lui faire tous les coups. Et LeMond, qui considérait Hinault comme son père, comme son modèle éternel, petit à petit, s'est mis à détester Hinault. Et les deux hommes, c'était comme ça. C'est la rivalité sportive qui a fait que. Et
c'est le plus grand service qu'il lui a rendu.
Un grand champion.
C'est une preuve d'amour qu'il a fait.
Un grand champion.
Ah, je sais pas si c'est de l'amour.
C'est le plus grand service qu'il lui a rendu.
David, un grand champion s'aimera toujours plus lui que l'autre. Ça l'empêche pas d'aimer les autres. Mais c'est vraiment toujours plus celui que les autres.
Évidemment. C'est l'ego d'un grand champion. Ouais, évidemment. C'est tout à fait logique. Évidemment.
Non, mais moi, je me suis. Non, c'est pas vrai. Je me suis jamais aimé.
Toi, t'avais des raisons. Je pense que Bernard Hinault, effectivement, se considérait, et à juste titre, comme le plus grand. Mais.
Écoutez,
c'est. Non, parce que s'aimer, c'est la plus grosse erreur que tu puisses commettre. C'est là où t'as le boulard, et c'est là où t'as plein de détails qui t'échappent parce que tu te crois supérieur à lui. C'est bien le contraire qu'il faut mettre. Faut avoir cette humilité de se dire, non, attends, j'ai des gros défauts et moi j'étais plutôt dans cette philosophie. Ouais,
parce que t'étais le plus grand, c'est pour ça quand t'es le plus grand, c'est facile d'avoir cette posture.
C'est facile d'aimer ses rivaux.
Tu les as tous battus, donc c'est facile. Si t'avais terminé à chaque fois quatrième aux Jeux Olympiques, je pense que tu les détesterais aujourd'hui.
Et tu sais quoi, David, le fait que tu sois capable de t'aimer beaucoup sur tes capacités, c'est pour ça que derrière t'as été en politique, t'as fait plein de choses parce que toi t'as jamais eu de plafond de verre. T'as toujours été sûr de toi et c'est ce que tu m'as appris d'ailleurs. T'étais la génération de nos limites. Et je me rappelle très bien, vous étiez sûr de vos compétences, les grands champions s'aiment beaucoup.
Et il n'y a pas de problème
là-dessus parce que tu as su aussi la preuve en est, notre amitié elle est réelle. Tu m'as toujours aimé. Oui. Mais par contre, tu t'es aussi beaucoup aimé, c'est preuve en est, tu t'es donné aussi beaucoup de chance de faire des choses qui pour des gens comme moi étaient impossibles. Défier l'impossible, c'est parce que tu t'aimes beaucoup.
Tu confonds s'aimer beaucoup et ne pas donner ses limites. Ça n'a strictement rien à voir. Tu confonds le fait de te couper de certaines voies sur lesquelles tu pourrais aller par un manque de confiance par rapport à tes capacités. Mais c'est pas s'aimer avoir un manque de confiance. C'est être objectif avec ce que tu es. Si tu es objectif avec ce que tu es, tu voilà. Bah, en fait, tu regardes jamais ce que tu sais bien faire. Tu regardes plutôt ce que tu sais pas faire et tu travailles là-dessus. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc là, tu casses le plafond d'air et que t'as pas de limite. Parce que tu dis, en fait, mais pourquoi? Il suffit que je travaille pour réussir.
Ok les copains, c'était très intéressant votre débat, votre relation d'amour aussi entre Fred Le Canu de Judoka et David Douillet. En tout cas, c'était important de vous entendre sur ce dossier. Sachez qu'on parlera de la compétition réelle Vingegaard-Pogacar demain dans les grandes gueules du sport.
Wouhou ! RMC, tu gardes ou tu switches ?
On joue ce matin, vous le savez, pour remporter la Nintendo Switch 2 qui vient tout juste de sortir. Alexia vient de gagner un cadeau. Je ne sais pas encore lequel, mais elle a été tirée au sort parce qu'elle a joué ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour Alexia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors j'espère que tu vas être encore plus contente dans quelques instants parce que c'est pas terminé. Sache que devant moi... Je vais faire un petit peu de musique, voilà. J'ai deux petites boules devant moi.
Oui.
Dans l'une, il y a la Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World.
Oui.
Merci Mario. Dans l'autre, il y a un bon d'achat de 100 euros à valoir chez Micromania Zing. C'est déjà un beau cadeau, évidemment.
C'est déjà un beau cadeau, oui.
Alors, tu vas me dire stop. Je vais tranquillement, tu entends, voilà, je les ai devant moi. Au stop, j'en tire une au sort, au hasard, c'est vraiment du hasard. Je suis désolé Alexia, j'espère que je vais te faire gagner. Vas-y, dis-moi stop.
Je le dis maintenant.
Ok, hop. Je me suis arrêté. J'en ai une dans la main.
Alors ?
Je l'ouvre tout de suite. J'espère vraiment, Alexia.
Que je vais crier de joie ?
Alors, juste avant... Pardonne-moi, c'est la première fois que je fais ce jeu que les Américains nous envient. est-ce que tu gardes ou est-ce que tu switches
c'est ce qu'on me dit de dire. Est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu prends l'autre? J'en ai une dans la main, j'ai le papier, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je te promets. Est-ce que tu gardes celle-ci ou est-ce que tu prends l'autre?
Je switch.
Ah, tu switch? Alors, je refais mon petit exercice. T'avais pas confiance en moi, j'ai bien compris. Alors, je prends l'autre. Je l'ouvre. C'est le jeu le plus long de la Terre, mais j'adore ça.
C'est un peu ce truc-là, c'est terrible pour les nerfs.
Et j'avoue, là, je suis un peu...
Alors, tu as switché. C'est-à-dire qu'on peut le dire, Alexia, tu ne m'as pas fait confiance.
Non, enfin, si, mais non,
pas trop. Mais moi non plus, je ne fais pas
tu ne m'as pas fait
t'as
confiance.
Raison,
alors, j'ai pris l'autre boule, évidemment.
D'accord.
Alors là, maintenant, je décline toute responsabilité. Je souhaite même que tu perdes, Alexia. Sache-le. Alexia, voici ton cadeau. Il est 11h47. Vous écoutez RMC. Et Alexia, dans les grandes gueules du sport, vient de remporter la Nintendo Switch.
Magnifique.
Bravo, Alexia!
Eh ben, je t'en fais de switcher! Oh, attends, oui! C'est pour une Switch!
Tu as bien raison! Mais
je suis trop heureux!
Mais nota bene pour vous, tous les auditeurs, ne jamais faire confiance à un animateur des RMC! Tu as bien fait de switcher! Oh, je suis très heureux pour toi! Bravo,
moi aussi,
Alexia!
Merci beaucoup! Et merci à mon conjoint Maxime, c'est lui qui m'a demandé de jouer en fait, il conduisait donc il ne pouvait pas jouer! Donc c'est moi qui ai joué à sa place!
Ah, t'as
mais c'est
un conjoint,
moi qui jouerai à sa place aussi.
Il est à côté de toi, Maxime?
Oui, il est à côté.
Eh ben, merci de sa fidélité. Merci de votre fidélité, Maxime. Bravo.
Oui.
Bravo.
Oui, heureusement que je suis là.
Faut pas switcher.
En toute modestie.
Alexia, Maxime,
heureusement qu'elle est là.
Merci à vous et vous allez la recevoir dans quelques jours, la Nintendo Switch 2 avec le jeu Mario Kart World. Merci à Mario, merci à Yoshi, merci à tous les petits personnages et merci à vous sur RMC.
Sur RMC, gagnez la console Nintendo Switch 2 avec Micromania Zing, spécialiste du jeu vidéo et de la pop culture. Rendez-vous sur micromania.fr.
Allez, on se remet de nos émotions et on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Qu'avez-vous choisi, chers auditeurs? Le top 14? C'est bien possible, à tout de suite.
Oui-hi !
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h51, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Fred Le Canu, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Et vous jouez maintenant, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
Il n'y a pas eu débat. Il a remporté haut la main les GG contre-attaque. Christophe Cessieux avec 45%. Le suspense de la dernière journée en top 14, c'est à 21h05 ce soir, à suivre en direct en intégralité sur RMC. Malheureusement, les copains, le débat sur l'agence de l'intelligence artificielle et le ballon d'or, 12%. Le basket est enfin reconnu en France, 17%. Et puis les débordements en Ligue des Champions après la victoire du PSG, 26%. À toi l'honneur, donc, Christophe, de nous exposer ta problématique.
Alors, je sais pas ce que vous allez faire, vous, ce soir, mais moi, à 21h, je sais où je serai. Je serai devant ma télé, l'image de Canal+, et le son d'RMC, évidemment, pour vivre la dernière journée de cette saison régulière de top 14. Vous me direz, c'est normal, le rugby, c'est mon truc, tous mes copains sont à l'antenne, patati patata. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais franchement, je trouve que la formule de ce top 14 est quand même bien pensée. Bon, certes, en cours de saison, il y a ce qu'on appelle les matchs tronqués, les impasses pratiquées par des entraîneurs, parce qu'il faut ménager du temps de jeu, ménager la forme pour les matchs à venir. C'est une vraie tare du système, mais à part ça, je trouve que la formule est quand même au top. C'est simple, ce soir, pour la dernière journée, 12 des 14 clubs qui vont s'affronter auront un truc à jouer. Certains rêvent d'une qualification directe pour les demi-finales, donc éviter de passer par les barrages. D'autres espèrent rallier justement ces barrages et envisager un titre de champion, c'est-à-dire que tu peux terminer sixième du championnat et dans trois semaines être champion de France. Et ça, c'est une possibilité qui n'existe pas dans d'autres sports. Et puis, en bas de tableau, il va également y avoir des matchs à la vie, à la mort pour trois formations qui veulent éviter la relégation ou l'access match de la semaine prochaine face à un club de Pro D2. Ces trois clubs, ce seront le Stade Français qui reçoit Castres, Perpignan qui se déplace à Toulouse et Vannes, le petit club breton le plus dans la mouise des trois puisqu'il se déplace à Bordeaux pour y affronter les champions d'Europe. Donc voilà, les trois sont dans la mouise et les trois vont affronter des équipes qui ont plus ou moins des intérêts. Donc on peut pas dire qu'ils vont donner le match, mis à part Toulouse qui a peut-être d'autres chats à fouetter et qui est déjà qualifié. Bref, ce soir ça va être une orgie de rugby. On va passer d'un match à l'autre, on va réactualiser le classement après chaque essai marqué. C'est Wilfried qui va s'y coller. Il adore ça, les mathématiques. Il a eu 20 sur 20 au bac et il va nous régaler. On est loin quand même de la soirée un peu tristounette, rappelle-toi, j'y sais, qu'on a passé lors des dernières journées de Ligue 1 il y a quelques semaines. Mis à part la place de relégué qui est tombée à la dernière seconde et qui s'est jouée entre Saint-Etienne et Le Havre.
Incroyable.
Ça, c'était effectivement incroyable. Mais il y a eu que ça, quoi.
Ouais. Si, sinon, c'est la quatrième place.
Il y a eu la qualification de Nice pour la phase préliminaire de la Ligue des Champions. Mais le champion, on le connaissait depuis des semaines. Le deuxième, on le connaissait depuis la semaine d'avant. Le troisième, voilà quoi. Je sais pas pourquoi, mais il faudrait peut-être que le foot réfléchisse à une autre formule pour essayer d'exciter un peu les foules en fin de saison. Ce qu'a réussi à faire le rugby. Et là encore une fois, le rugby est devant le foot. Je suis désolé, messieurs les footeurs.
Voilà, c'est un plaidoyer évidemment pour vendre cette soirée magnifique.
Voilà, je
sur
fais
RMC.
Du lobbying un peu comme les Espagnols, moi y a mal.
Mais en tout cas, tu as raison. Il y a 12 équipes qui jouent quelque chose ce soir et c'est assez rare pour le souligner. Alors évidemment, il y a encore ce duel deuxième, troisième place entre l'UBB et Toulon. Après, il faut être dans les 6 premiers et ça ne se joue pas que sur les 6 premiers parce qu'il y a le 7e, le 8e, le 9e qui jouent quelque chose. Et puis, il y a cette bataille pour le maintien. Ça va être absolument incroyable, explosif à tel point. Je sens que tu as envie d'instaurer aussi cette problématique en Ligue 1 et d'avoir un peu cette saison régulière.
Ce serait bien. Ensuite les... de ne pas connaître le champion au bout de 6 mois de compétition, ce serait pas mal quand même.
Vous savez quoi les amis, c'est ce soir à 21h05, on va suivre évidemment ce multiplex, cette dernière journée du top 14. Merci beaucoup David Le Canu, David Douillet, Fred Le Canu.
On s'aime beaucoup, mais de là à se fusionner comme ça, les enfants, en tout cas si on fusionne, j'espère qu'il aura ma tête. Hein.
Et moi le reste.
C'est la fusion, c'était Végéta, pardonnez-moi. Fred Le Canu, David Douillet évidemment, Fred Weiss et Christophe Cessieux. On se donne rendez-vous demain à partir de 9h pour les Grandes Gueules du Sport. On parlera d'équipe de France, de Roland Garros, du Dauphiné, du top 14 évidemment. Bref, encore une énorme émission. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin.